À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Souleyman Bachir Gagne, je suis philosophe à Columbia University.
Premier épisode, le bois mort et le fagot vivant. Bonsoir Souleyman Bachir Gagne.
Bonsoir Caroline Brouet.
Vous êtes philosophe, vous l'avez dit, mais pas seulement. Vous êtes une grande voix de la philosophie aujourd'hui et vous êtes, de la vie générale, l'un des intellectuels les plus éminents de notre temps. Un intellectuel qui tente de développer une pensée qu'on pourrait dire tournée vers un humanisme commun. Mmh. Une pensée sur trois continents, car si vous êtes né à Saint-Louis du Sénégal en 1955 et que vous avez enseigné pendant 20 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, vous avez fait vos études à Paris, au lycée Louis-le-Grand, avant d'intégrer l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où nous enregistrons aujourd'hui et nous comprendrons pourquoi. Et depuis le début des années 2000, vous êtes un professeur réputé aux États-Unis, d'abord à la Northwestern University de Chicago, puis à l'Université de Columbia à New York, où vous enseignez dans le département de français et de philosophie et où vous dirigez également l'Institut d'études africaines. À côté de ce triple ancrage géographique, Souleyman Bachir Gagne, il faut signaler votre appétence certaine pour les langues. Je crois que vous en parlez couramment, 7.
Alors, en parler, c'est beaucoup dire, parce que les langues mortes, on ne les parle pas. Je travaille avec le latin, je travaille avec le grec, et je dirais même que pour à l'arabe, j'ai une relation à l'arabe comme langue liturgique, beaucoup plus que langue parlée. C'est-à-dire que nous pourrions peut-être parler des attributs de Dieu en langue arabe, ou de philosophie en langue arabe, mais probablement pas regarder un match de football en langue arabe.
Donc il y a les langues que vous connaissez, que vous avez apprises, et celles que vous pratiquez, mais il y en a un certain nombre, on va dire ça comme ça. Ce qui vous donne un avantage certain pour penser une philosophie de la traduction, qui est sans doute le véritable fil rouge de votre parcours intellectuel et que nous aborderons vendredi. Vous vous êtes rendu compte tardivement, justement, que la traduction était sans doute le fil directeur de votre parcours intellectuel. Comment ça se fait, d'une part, et en quoi cette traduction fait-elle le lien entre la philosophie des sciences ou l'algèbre, qui a été votre premier sujet d'étude, l'islam et les études africaines, ou peut-être même le postcolonialisme, qui sont vos domaines de prédilection aujourd'hui?
Vous savez, il a fallu que quelqu'un d'autre m'appelle philosophe de la traduction pour que je me rende compte qu'en effet, j'en étais un. Il y a quelques années de cela, le Nouvel Observateur avait consacré un article à un certain nombre de philosophes, de penseurs, d'intellectuels, dont moi-même, et ils avaient demandé à un philosophe de mes amis, camerounais, Jean Godefroy Bidima, d'écrire un article sur mon travail. Et ça avait été le titre de Jean Godefroy. Philosophe de la traduction. Et il avait lui-même tissé ensemble mon travail à ce moment-là sous ce mot, sous ce concept de traduction. Et je me suis rendu compte en le lisant qu'en effet, ce qui faisait le lien entre différents domaines dans lesquels j'avais écrit, un premier domaine qui était la logique algébrique, disons la traduction que nous effectuons lorsque nous parlons à nos machines aujourd'hui, de nos langues naturelles vers la langue des machines qui est une succession de 0 et de 1. Donc j'avais consacré ma thèse à cette logique binaire du 0 et du 1. Et ensuite j'avais écrit effectivement des choses dans le domaine de la philosophie islamique, en particulier la rencontre entre la philosophie grecque et le monde de l'islam, rencontre qui avait signifié une traduction des textes philosophiques grecs en langue arabe. Et de la même manière, les travaux qui sont les miens, que j'effectuais à cette époque-là dans le champ africain, étaient fortement liés également à la question de la langue. Quelle langue de la philosophie pour dire les problèmes philosophiques africains? Et donc, je me suis dit, mais bon sang, mais bien sûr, j'ai toujours fait de la traduction comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que, à partir de ce moment, si vous voulez, j'ai de manière plus précise et plus directe thématisé dans mon travail la traduction. Bon, je savais bien que la traduction était présente. Elle est devenue un sujet d'exploration, de réflexion, bien plus tard, et suivant ce moment d'un article qui avait été écrit sur mon travail.
Et d'ailleurs, vous avez consacré un livre à cette traduction, à cette philosophie de la traduction, sur lequel nous reviendrons donc dans le cinquième temps de cette émission, de langue à langue, un livre qui a été écrit en 2022. On peut vous placer du côté de la traduction, on pourrait aussi vous mettre du côté du décentrement ou du pas de côté. Est-ce que le fait de parler plusieurs langues, le fait de vivre sur plusieurs continents, vous permet un regard d'une lucidité, vous diriez, particulière ?
Je le crois et je l'espère. Je l'espère que cela se traduit en lucidité, effectivement, dans la démarche qui est la mienne. Parce qu'en effet, vivre entre plusieurs langues, vivre sur différents continents, penser de langue à langue, pour reprendre l'expression que j'utilise pour le titre de mon livre dont vous avez parlé, c'est une opération de décentrement. On se décentre en passant d'une langue à une autre. Quand je parle français ou que j'écris en français ou que je pense philosophiquement en français ou quand je suis au contraire en anglais, je n'ai pas la même approche. D'une certaine manière, je n'ai pas la même relation à ce que je pense, même si je pense des choses identiques d'une langue à l'autre. Et cette opération de décentrement est une expérience tout à fait singulière et tout à fait intéressante, et c'est l'expérience que l'on retrouve dans la traduction. Parce que la traduction, c'est pas simplement le fait technique, l'acte technique de transvaser un contenu d'une langue à une autre. C'est véritablement faire l'expérience d'un déplacement entre deux manières différentes d'approcher le monde. Disons que chaque langue est une certaine expérience du monde, une certaine perspective sur la réalité. Une langue, ça nous met en relation avec le monde et avec les autres. Et chaque langue a sa manière particulière de nous mettre en relation avec ce monde et avec les autres. Et donc, se déplacer d'une langue à une autre, c'est presque l'expérience d'entrer dans un monde différent. Et c'est une expérience importante, cruciale, parce que cela nous apprend le décentrement. Cela nous apprend à regarder notre propre langue d'un point de vue extérieur à cette langue. Et la seule extériorité à une langue, c'est une autre langue. Regarder les manières de dire, les manières de penser en Wolof depuis le français, en français depuis le Wolof, depuis l'anglais, etc. C'est une expérience, me semble-t-il, importante de décentrement et je crois qu'elle est très utile.
Est-ce que cette expérience de décentrement et cet apprentissage des langues, cette ouverture d'esprit, on pourrait dire, puisque c'est, je pense, comme ça qu'on peut le qualifier, c'est quelque chose qui vous vient de votre travail de philosophe, de vos sujets d'études, ou de plus loin, de principes éducatifs que vous auriez reçus, de votre famille, pour le dire clairement ?
Ben les deux, parce que mon éducation, ça a consisté à vivre entre plusieurs langues. Il se trouve, et ceci tient au caractère singulier, particulier de ma propre vie, de ma première enfance. Il se trouve que quand j'étais enfant, et que donc je faisais l'apprentissage de la parole, mes parents se sont retrouvés dans le sud du Sénégal, dans la ville de Ziguinchor. Nous avons quitté ma ville natale, notre ville natale de Saint-Louis du Sénégal dans le nord, pour aller vivre dans le sud à Ziguinchor. À l'époque, ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque, le Wolof, la langue Wolof qui était la nôtre, n'était pas aussi répandue dans la ville. Donc, nous utilisions ce qui était la langue officielle, puisque c'était la langue de la colonisation. C'était encore, je suis né 5 ans avant l'indépendance du Sénégal, qui était le français. On s'adressait à nous en français. Et donc, j'ai parlé très tôt, dans ma petite enfance, le français, le Wolof bien entendu, et aussi deux autres langues locales à Ziguinchor, la langue Diola, qui était la langue d'une ethnie majoritaire en Casamance, et le créole, un créole portugais qui était propre à la ville de Ziguinchor, parce que la ville de Ziguinchor avait été à un moment donné occupée par les Portugais, et de toute façon elle était toute proche de la Guinée-Bissau au sud du Sénégal, qui était une colonie portugaise à ce moment-là. Et ensuite, l'école coranique, où j'annonnais les lettres de l'alphabet arabe en lisant, donc en apprenant à lire le Coran et à réciter le Coran. Et donc j'ai été exposé très tôt dans mon enfance, dans ma première enfance, à plusieurs langues. Ceci ne détermine rien. Ça veut dire que ça n'est pas, il n'y a pas un lien direct ou mécanique avec ce que j'ai fait par la suite. Mais disons que ma réflexion sur la traduction, au fond, c'est nourri aussi de cette expérience d'avoir toujours vécu dans plusieurs langues.
Vous avez grandi, dans tous les cas, dans votre deuxième petite enfance, dès que vous avez pu vous tenir sur vos deux jambes à Ziguinchor, en Casamance. Mais pourtant, vous vous dites un enfant de Saint-Louis, né à Saint-Louis, mais même si vous n'y avez pas vécu longtemps, vous dites que vous vous y sentez chez vous et que vous devez tout à sa culture et à sa spiritualité.
Oui. Vous savez, Saint-Louis, ce n'est pas simplement un lieu géographique, c'est véritablement une certaine culture et un état d'esprit. D'ailleurs, les Sénégalais ne s'y trompent pas. J'explique dans la petite biographie intellectuelle que j'ai écrite qu'il y a une expression en Wolof, « Domundar », qui signifie « enfant de Saint-Louis » et qui n'est utilisée précisément que pour les enfants de Saint-Louis. On n'appelle personne enfant de Dakar. Ni enfant de Ziguinchor. On est enfant de Saint-Louis. Et c'est une manière, lorsque cette expression est utilisée au Sénégal, c'est une manière de dire que quelqu'un a manifesté une certaine culture et même une certaine façon de parler le Wolof. Il y a un Wolof saint-louisien. Il y a également une histoire dont on est l'héritier lorsqu'on est né à Saint-Louis. C'est la ville la plus ancienne au Sénégal. Et c'est une ville qui est née et qui a grandi métisse. C'est une ville plurielle. C'était une ville à la fois française, puisque un comptoir a été fondé qui s'est appelé Saint-Louis par les Français au XVIIe siècle. Et en même temps, il y avait un village local qui s'appelait Ndar. Et les deux ont grandi ensemble. Et donc Saint-Louis était une ville française et africaine, dirons-nous. C'était une ville également d'immigration, où en particulier s'est installée une importante population marocaine, surtout venant de la ville de Fès. Donc voilà, une ville marocaine, une ville mauritanienne, puisque Saint-Louis a été capitale et du Sénégal et de la Mauritanie, après avoir été capitale d'ailleurs de toute l'Afrique occidentale française, sénégalaise, mauritanienne, marocaine, française. Bref, c'est une ville aux multiples visages et ce pluralisme, ce cosmopolitisme de cette ville a créé une culture particulière qui explique pourquoi on parle du Domundar. Plus maintenant, une tradition intellectuelle très importante, à la fois d'érudition islamique, il y avait beaucoup de grands maîtres des études islamiques installés à Saint-Louis, et beaucoup d'oulama, de savants musulmans de l'Afrique de l'Ouest sont venus s'instruire à Saint-Louis. De la même manière, c'est à Saint-Louis que les Français s'étant établis depuis très longtemps, les premières écoles françaises ont été également ouvertes. Donc, de ce point de vue-là, qu'il s'agisse de l'enseignement en français, l'école française, qu'il s'agisse des études islamiques les plus avancées qui soient, Saint-Louis était véritablement un centre intellectuel, un centre de grand rayonnement. Et c'est de tout cela que l'on est héritier, en quelque sorte, lorsqu'on est enfant de Saint-Louis. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est la culture saint-louisienne, je l'ai transportée avec moi, partout où je suis allé, même si je n'ai pas grandi à Saint-Louis, même si j'en suis parti sachant à peine marcher, j'ai toujours baigné dans la culture saint-louisienne qui était celle de mes parents, qui était celle de tous mes aïeux, et voilà.
Qui est une famille saint-louisienne.
Qui est une famille saint-louisienne, oui. Ma
famille. Et une famille musulmane, avec un grand-père imam, une grand-mère fille de marabout qui enseignait elle-même le Coran, un père qui était postier et théologien, et donc vous avez aussi baigné dans la branche soufie de l'islam. Ça, c'est très important parce que vous disiez que à Saint-Louis du Sénégal, il y avait une immigration venue de Fès, du Maroc, très importante, qui a donné une voix à la branche soufie de l'islam qui s'appelle la Tidjaniya, qui est précisément née au Maroc. Pour les auditeurs et les auditrices, à qui ça ne parlerait pas du tout, est-ce que vous pouvez nous décrire la branche soufie de l'islam et cette voie à laquelle votre famille était affiliée, la Tidjaniya, ça veut dire quoi?
Alors, utilisons d'abord un mot, mysticisme. Disons que le soufisme, ce serait la dimension mystique de l'islam. Vous auriez, à ce moment-là, le rituel islamique proprement dit, tous les aspects, disons, extérieur de la religion reconnaissable qui définissent l'appartenance à l'islam d'un musulman. Et vous avez cette dimension mystique ou cette dimension intérieure de la quête spirituelle. Et c'est celle-là qu'on appelle le soufisme. L'idée d'une quête qui est à la fois la quête de l'autre absolu qui est Dieu et la quête de soi. Les deux quêtes n'en faisant qu'une d'une certaine façon. À un moment donné, dans l'histoire de l'islam, elle a pris la forme d'une affiliation à ce que l'on appelle des voies soufis ou des confréries soufis. Cela veut dire qu'un guide spirituel définit un certain nombre de pratiques, en plus des pratiques qui définissent l'islam, qui sont des pratiques qui vont aider le disciple à réaliser la perfection spirituelle à la recherche de laquelle il ou elle s'est lancé. Alors, la Tijaniya est une de ces voies soufis, une de ces confréries très présentes au Sénégal. Elle est née au XVIIIe siècle. Le fondateur de cette voie, le père spirituel, si vous voulez, de la voie Tijani, qui s'appelait Abul Abbas Ahmad Tijani, de son nom complet. Et donc, Ahmad Tijani a fondé la Tijaniya au XVIIIe siècle. Il était né en Algérie, mais il a vécu à Fès. Et cette voie qui est née au Maroc a élu domicile au Sénégal. C'est probablement au Sénégal et dans le nord Nigeria que la Tijaniya a véritablement trouvé un maximum de disciples. Et le Sénégal en particulier se distingue en étant une des capitales véritablement de cette confrérie Tijane que l'on trouve un peu partout. Et en particulier la ville de Saint-Louis. J'ai indiqué tout à l'heure qu'une importante population marocaine s'était installée à Saint-Louis, en général de Fès. Beaucoup de ces commerçants marocains installés à Saint-Louis étaient eux-mêmes des Tijanes. Encore que la Tijaniya s'est développée au Sénégal, en fait, non pas sous l'action de Marocains, mais sous l'action de Sénégalais eux-mêmes. C'est dans cette confrérie que je suis né, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que j'ai trouvé dans la famille de mon père beaucoup de guides spirituels Tijani, et dans la famille de ma mère également. Le mari de sa grand-mère était un guide Tijani respecté, le grand-père de mon père était un guide Tijani respecté. Je vous parle de ces deux arrière-grands-parents parce que tous les deux sont enterrés aujourd'hui au cimetière marmial de Saint-Louis. Et le lieu où ils sont enterrés constitue un lieu de recueillement pour beaucoup de personnes qui estiment qu'ils avaient un certain degré, disons, de sainteté, osons le mot. Eh bien voilà, voilà le genre d'atmosphère familiale dans laquelle je suis né. Mais naître dans une confrérie, ça ne veut rien dire. Parce qu'encore une fois, la démarche soufie est une démarche évidemment individuelle. Intérieur individuel. Donc, on a beau être petit-fils ou fils d'un Tijani ou d'un guide Tijani, ça ne fait pas de vous un Tijani nécessairement. Il faut l'acte de foi et la décision qui consiste à soi-même s'affilier à cette voie-là. Donc, j'ai baigné dans la culture avant le moment où je me suis en effet, effectivement, affilié à la voie Tijani.
Et ça ne vous a pas empêché, même si on entend beaucoup de profondeur, de solennité dans la façon dont vous rapportez cette origine qui est la vôtre, cette famille, ça vous a pas empêché, surtout quand vous avez vécu et grandi à Ziguinchor, en Casamance, de construire, vous le dites vous-même, hein, Souleymane Bachir Diagne, de construire votre être au monde sur le mode bougarabou. Du nom d'un tambour qu'on peut considérer comme un symbole des musiques et des danses de la région. Donc, développer intérieurement cette culture tijane qui était la vôtre, ce rapport très intérieur donc à la religion et au mysticisme. Mais bon, fallait se construire.
Et à la danse. Vraiment, danse. Il faut danser. Voilà, ça prépare à la philosophie. Soyons Nietzschéens. C'est Nietzsche qui dit que pour être philosophe, il faut savoir danser d'abord. Et c'est vrai que, bon, d'avoir grandi à Ziguinchor, ça a fait que j'ai également absorbé beaucoup de la culture casamançaise. de la même manière que j'ai baigné dans la culture saint-louisienne, que je l'ai transportée avec moi partout où je suis allé, j'ai également absorbé les cultures des lieux où je me trouvais et j'ai absorbé la culture casamançaise. Je vous ai dit, je parlais la langue, je parlais les langues qui étaient parlées à Ziguinchor. Et surtout, j'ai grandi aussi avec les rythmes de la Casamance. Alors, le nord du Sénégal, la culture wolof, la culture musicale wolof, c'est plus le malakh que Youssou N'Dour, qui est probablement le Sénégalais, l'un des Sénégalais les plus connus à l'étranger, a transporté, a popularisé et a intégré à ce qu'on appelle la world music. Mais le rythme du Bougarabou également est un rythme très important et qui est caractéristique du sud de Casamance. C'est le rythme que l'on retrouve, par exemple, pour prendre d'autres musiciens sénégalais internationalement connus, ce sont les frères Touré Kounda, le rythme des frères Touré Kounda, qui ressemble parfois d'ailleurs à du reggae, c'est de la musique casamançaise. Et d'ailleurs, beaucoup d'air qu'ils chantent, la première fois que je les ai réentendus en écoutant les disques de Touré Kounda, ça m'a beaucoup remué parce que c'était des airs que je connaissais. J'avais là quelque chose d'assez proustien dans la réminiscence qui s'effectue à ce moment-là en écoutant ces musiques-là, qui me rappelaient ma propre enfance. Et enfant, j'aimais beaucoup, effectivement, danser, gesticuler. Comme tous les enfants, c'est une manière, au fond, d'être toujours dans un spectacle permanent et d'essayer d'attirer l'attention des parents, des adultes, voilà. Donc, je faisais ça très bien en dansant le Bougarabou.
Puisque vous parlez des réminiscences, des choses qui remontent de cette enfance, il faut signaler que parmi les nombreux ouvrages que vous avez écrits et auxquels on se référera au cours de ces 5 entretiens, il y a vous avez dit tout à l'heure, une petite biographie, une autobiographie intellectuelle qui s'appelle Le fagot de ma mémoire et qui est apparue chez Philippe Ray en 2021, qui s'ouvre sur cet exergue du poète et conteur Birago Diop. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Je trouve que c'est très joli pour ouvrir cette série d'entretiens de rappeler cette phrase et j'aimerais vous demander précisément au fond de quoi est fait le bois mort de cette enfance et quel est le fagot vivant que vous aimeriez remonter.
Alors justement, je me suis des amis m'ont dit mais pourquoi le bois mort? Parce que le bois mort, c'est précisément ce qui est mort. On ne le ramène pas à la vie. Or aller chercher dans sa mémoire, c'est ramener à la vie, ramener au présent des choses qui étaient enfouies dans le passé. Et alors je me suis dit que il fallait entendre bois mort comme le bois que l'on peut allumer précisément et qui va donner une flamme. Et une flamme qui réchauffe. Et c'est ainsi que j'ai compris finalement la démarche qui était la mienne lorsque je l'ai mise ainsi sous le signe de Birago Diop et sous le signe de cette phrase magnifique de Birago Diop. Ça voulait dire à la fois ranimer des choses, retrouver dans ma petite enfance et dans mon adolescence et dans le parcours qui a été le mien, dans les villes où j'ai été, les personnes que j'ai rencontrées qui ont compté pour moi, etc. Retrouver là-dedans quelque chose qui m'explique à moi-même ce que j'ai pensé, ce que j'ai écrit, ce que j'ai la contribution que j'ai apportée à, disons, la philosophie africaine. Et l'autre aspect, ramener le fagot qui lui plaît, ça veut dire que j'étais forcément sélectif. Ce n'était pas véritablement des mémoires où j'aurais raconté un peu tout. D'abord, je ne sais pas, qui suis-je pour estimer que ma vie telle qu'elle est pourrait intéresser. Mais j'ai fait la sélection de ce qui me semblait expliquer, au fond, pourquoi je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, reprenant mon ami Bidima, un philosophe de la traduction. Donc c'est les éléments de biographie que j'ai choisis, donc que j'ai sélectionné pour constituer le fagot qui me plaisait. Ce sont des éléments qui tous s'orientent, je crois, en direction du travail que j'ai fait comme philosophe et que je continue à faire.
Et si vous deviez choisir, puisque tout est une question de choix, si vous deviez choisir un mot pour parler de principes ou des principes éducatifs que vous avez reçus, sans réfléchir, spontanément, même si vous y avez réfléchi, puisque vous avez écrit votre livre, je pense que vous y avez réfléchi, mais quel est le mot que vous choisiriez en premier ?
Pluralisme. Pluralisme. Je crois que le pluralisme est une des valeurs centrales dans ce que j'essaie de faire. Parce que le pluralisme est important à plus d'un titre. J'ai dit tout à l'heure que je considérais que Saint-Louis m'avait enseigné le pluralisme. Saint-Louis est une ville plurielle. C'est une ville de tolérance parce que c'est une ville plurielle et pluraliste. À Saint-Louis cohabitent des blancs, des noirs, des bruns. À Saint-Louis ont cohabité également des chrétiens, des musulmans. Je signale d'ailleurs dans ce livre le symbole extraordinaire que constitue cette mosquée qui a un minaret et un clocher tout à la fois. Et ce pluralisme qui est la véritable signification de la tolérance. La tolérance, c'est pas simplement de dire je sais bien que tu es différent, je t'accepte tel que tu es différent. C'est une sorte de tolérance. Cette tolérance-là est un petit peu condescendante. En revanche, comprendre que le monde est pluriel et qu'il est bel et bon qu'il en soit ainsi, ça, c'est une véritable tolérance parce que c'est un pluralisme qui mène au respect. Et ceci n'est pas sans lien avec deux autres concepts qui sont importants dans mon travail. Premièrement, celui de traduction, parce que précisément, la traduction, c'est ce qui tisse ce pluriel. Le monde est fait de langues multiples, mais ces langues se rencontrent en traduction. La relation que l'on peut avoir au pluriel des langues, c'est une relation qui consiste à vouloir les traduire. Et la traduction est importante dans ce que j'essaie de faire. Autre aspect, un universel qui tienne compte de ce pluriel du monde, un attachement à une forme d'universalisme qui ne soit pas l'universalisme impérial. Et tout cela, me semble-t-il, est bien lié à la notion de pluralisme. Donc voilà, si vous me poussez comme vous l'avez fait dans mes derniers retranchements en me disant un seul mot, ce mot-là sera pour moi pluralisme.
Et une voix, j'entends aussi le mot tolérance, donc la tolérance qui a permis à vos parents de vous mettre dans un jardin d'enfants à Ziguinchor auprès des sœurs du Saint-Sacrement, donc dans une école catholique où vous avez appris l'Ave Maria, et une tolérance et un pluralisme qui va pour vous aujourd'hui jusqu'à, quand vous vous rappelez de cette enfance, jusqu'à écouter Ave Maria par Schubert ou par Beyoncé. Tout est possible.
Tout est possible.
De culture, il sera question demain avec vous, bien sûr, Souleymane Bachir Diagne, puisque nous parlerons des lectures, de vos études, de Dakar, où vous êtes allé, puis de Paris, où vous avez étudié, avant de retourner à Dakar pour y enseigner. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Martin Troadec, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.